coup, grâce à cette recherche-là, ils ont pu recenser les femmes qui étaient, qui travaillaient dans la compagnie de Lens, donc dans les mines de la compagnie de Lens. Et en fait, ils en ont recensé à peu près 200.
Et du coup, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'elles avaient vraiment des métiers dans la mine.
Ouais.
La bonne pioche. Les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes Latitude.
Mossan Olivia pour ce magazine Latitude sur le charbon. Vous vous êtes intéressé à un personnage célèbre, la Maheude, la mère de famille dans Germinal. Mossan, pourquoi s'intéresser à ce personnage en particulier ?
Pourquoi s'intéresser à ce personnage-là ? Bah, déjà, en fait, on a toutes les deux regardé la série assez attentivement et on s'est rendu compte qu'elle était, enfin, le personnage de la Maheude, du coup, qui était joué par Alix Poisson, était vachement mis en avant. Donc que ce soit dans les décisions politiques, syndicales, c'est elle qui décidait, enfin qui prend la décision de faire la grève à un moment. Et puis elle est vachement présente aussi dans le travail de la mine. Et du coup, on se demandait, est-ce que c'est vraiment une réalité ?
C'était vraiment la représentation de la femme à l'époque.
Parce que du coup, nous, on a toujours dans cet imaginaire le fait que les femmes se sont cantonnées à des rôles, on va dire, secondaires dans la famille, dans la maison.
Bah, dans les rôles stéréotypés de la famille, quoi, de s'occuper des enfants, du mari. Et on voulait savoir vraiment si c'était vraiment un milieu entièrement masculin, s'il y avait vraiment une place pour la femme dans les mines.
Et spoiler, non, c'était un univers qui était aussi vachement féminin.
Déjà, il y avait des femmes dans les mines.
Il y avait des femmes dans les mines. Il y avait des femmes dans les mines, donc il y avait plusieurs rôles et plusieurs métiers. Il y avait un métier au fond de la mine qui était réservé du moins aux femmes et aux enfants, qui était le métier de herscheur ou d'herscheuse, du coup. C'était les personnes qui rassemblaient tout ce qui tombait des pioches des mineurs. Ouais. Qu'elle rassemblait du coup dans les berlines qui ensuite transitaient vers le haut. Et ensuite, il y avait d'autres métiers qui étaient du coup à l'extérieur de la mine, mais qui étaient vraiment en lien avec le fond. C'était d'abord le rôle de lampisterie. Elle recensait toutes les lampes en fait, des mineurs, puisque en fait, un mineur partait avec une lampe en particulier pour descendre dans la mine. Et en fait, elle recensait. Donc, si jamais il y avait une lampe qui manquait, on savait en fait qu'il y avait un mineur qui avait disparu. Donc ça, c'était vachement important. Et puis, d'un autre côté, il y avait aussi le travail de trieuse. Voilà, de faire le tri du minerai, rassembler ce qui était du charbon, ce qui n'en était pas. Et voilà. Donc, il y avait vraiment ces rôles qui n'étaient pas forcément réservés aux femmes, mais les femmes étaient présentes à ces rôles-là, à ces métiers-là.
Donc il y avait les femmes dans les mines, il y avait aussi des femmes
en haut de la mine,
c'est ça que j'allais dire, qui travaillaient. Est-ce que ce sujet, ça a été l'objet de recherches historiques, ou est-ce qu'on en est encore à un point où les historiens ne sont pas encore vraiment intéressés
Si, il y a beaucoup d'historiens qui sont intéressés à cette question, notamment des historiens de la région. Nous, on a pu contacter donc Mathieu de Oliveira, qui est maître de conférence à l'Université de Lille et qui est historien d'histoire contemporaine. Et lui, il a vraiment mis tout un projet en place avec ses étudiants où il a recensé, je crois, 200 000 fiches d'emploi de l'époque.
En fait, c'était des fiches individuelles.
Ouais.
Chaque mineur avait une fiche individuelle avec sa photo, sa date de naissance, sa femme, ses enfants.
Sa profession.
Sa profession, son rôle dans la mine. Et du coup, grâce à cette recherche-là, ils ont pu recenser les femmes qui étaient, qui travaillaient dans la compagnie de Lens. Donc, dans les mines de la compagnie de Lens. Et en fait, ils en ont recensé à peu près 200.
300 même, je crois.
Ouais.
Et du coup, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'elles avaient vraiment des métiers dans la mine.
Ouais.
Et sur les fiches, il y avait les niveaux aussi de débutants.
Ouais, voilà. Et ensuite, du coup, il y a ce travail qui était vachement... Enfin, travail d'archives. Et puis, on a aussi des historiens et des historiennes qui sont spécialisés, en fait, dans ces thématiques-là, qui sont spécialisés de la mine et de la femme dans la mine.
Donc, et de Germinal.
Et de Germinal.
Du coup, la deuxième historienne qu'on a pu contacter, donc Diana Cooper-Richer.
Exact.
Qui est spécialiste du 19e siècle et qui a écrit des livres, d'ailleurs, sur la question des mineurs. Elle est très fan de Germinal et du coup on a beaucoup parlé avec elle du livre et du parallèle entre le livre et la vie réelle à l'époque.
Et aussi, on a eu la chance de contacter aussi Virginie Malolepchi, qui est du coup la directrice des archives du Centre minier de Le Ward. Et elle aussi a fait un travail assez important sur les femmes dans la mine et a pu nous renseigner pas mal pour notre article.
Et est-ce qu'au-delà du coup du personnage de la Maheude, en restant sur cette représentation de la mine, est-ce que chez Zola, la mine est bien représentée? Et est-ce que dans la série qui est sortie là en 2021, pareil, est-ce que c'est bien représenté?
On a beaucoup parlé du coup avec Diana Cooper-Richer de cette question-là, de la représentation de la mine en général. Et c'est la violence qui est surtout revenue. Comme quoi dans la série elle est très, très violente par moments, surtout dans les manifestations quand ils luttent pour leurs droits.
Beaucoup de sang, oui.
Et il s'avère que c'était tout aussi violent à cette époque-là. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une représentation qui est assez...
Oui, au final,
c'est pas exagéré pour la fiction.
Non, au final,
c'est pas
non,
c'est exagéré. Non.
Bon, après, forcément, c'est que dans une série de 6 épisodes, ils vont forcément mettre des moments violents. Mais elle nous avait parlé aussi de plusieurs faits divers. Et il y a des mineurs qui avaient défenestré un représentant d'une compagnie minière. Il y avait vraiment eu des événements très violents, que ce soit du côté des mineurs ou du côté des compagnies. Mmh. Donc ça, c'était vraiment, enfin, pour le coup, c'est quelque chose qui est bien représenté. Et pour le coup, ça, c'est assez véridique. Ensuite, pour ce qui est de Zola, la représentation et son œuvre, est-ce qu'elle a impacté les mineurs? Est-ce que les mineurs l'ont bien perçu? Il y a quand même un événement qui est assez important, c'est qu'en 1902, quand Zola meurt, il y a ses funérailles qui sont célébrées à Paris, et du coup, il y a une délégation de la compagnie des mines d'Anzin qui vient, du coup, pour le célébrer et pour, en fait, lui rendre hommage. Et pendant que son cercueil passe, en fait, ils vont crier « Germinal, Germinal ». Donc ça prouve, en fait, pas mal... que justement cette œuvre-là, elle est plutôt bien
accueillie par
les mineurs, quoi. Et puis il y a aussi il y a l'impact de Zola auprès des mineurs, et puis il y a l'impact de Zola dans tout ce qui est l'œuvre sur l'art sur les mineurs.
Et puis dans notre époque actuelle.
Oui.
On parlait tout à l'heure de l'écrivain chilien.
Ouais, exact. L'écrivain chilien, c'est Diana Cooper-Richer qui nous en a parlé.
Lui aussi traitait la question des mineurs.
Et qui était descendant de mineurs, surtout. Il était descendant de mineurs.
Et il a appelé Zola chilien.
Sa prétention, c'est d'être le Zola chilien. Parce que Zola, il a fait tout un travail de recherche. Il est allé dans les mines. Il a passé plusieurs jours là-bas. Et il a vraiment fait un travail de documentation qui était vachement important.
C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que ça a été vraiment bien accueilli par... les mineurs d'Anzin, notamment, puisqu'il s'est vraiment intéressé.
Il s'est documenté.
Pas juste écrit un livre, il est allé dans la mine avec eux, il s'est vraiment intéressé à leur quotidien, et je pense que ça a été bien accueilli aussi pour ça.
Et puis s'il y a eu cette délégation justement des mineurs d'Anzin, c'était une sorte de validation, ils valident le livre, et s'ils crient Germinal, c'est qu'ils se sentent...
Oui, c'est un message assez
c'est un
fort,
message aussi.
Je trouve. Ouais.
Faire le déplacement d'Anzin, enfin, ou de Denain, jusqu'à Paris, c'est symbolique, et je pense que il l'aurait pas fait si ça avait été un simple romancier qui avait fait un roman sur eux, quoi. Enfin, c'était vraiment
c'était
parce que c'était représentatif.
Il valide son travail, et en même temps c'était peut-être une forme de reconnaissance, j'imagine, d'avoir une œuvre qui parle d'eux.
C'est ça.
C'était une façon aussi de lui rendre hommage.
Je pense que c'était la première fois qu'il y avait un roman qui leur était entièrement dédié. Et je pense, avec leur statut mineur et les luttes qu'ils mettaient en place pour leurs conditions, pour améliorer leurs conditions... je pense que ça a été.
Et puis Germinal, c'est aussi même si ça finit très mal, c'est quand même un roman d'espoir. La fin du roman, c'est les mineurs rentrent dans la mine parce qu'ils ont perdu la lutte, mais il y a déjà les germes, en fait, de la future revendication, et ils savent qu'ils vont enfin potentiellement bientôt avoir des droits et avoir des droits mieux encadrés.
C'est pas un échec, finalement, c'est juste la première étape de la lutte, et elle continue. Et...
C'est ça, donc c'était un message d'espoir pour eux, et je pense que c'est encore davantage, encore plus important pour eux, cette œuvre.
Pour en savoir plus sur le personnage mythique de la Maheude, votre article Mossane et Olivia est à retrouver dans le magazine Latitude, et on rappelle qu'on est présents sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Twitter et notre site internet latitude-2023.fr. Merci d'être passé dans La Bonne Pioche.
Merci.
La Bonne Pioche, les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes latitude.